Cinq jours plus tard, le titre de Borrelia a perdu un tiers de sa valeur quand sort le deuxième article. Il porte sur Optimo et plus généralement sur la gestion des ressources humaines. Il repose sur l'étude de notes internes dont la rédaction a vérifié l'authenticité. Les managers ont reçu des consignes pour que des gens prennent la porte sans recevoir les honneurs dispendieux d'un plan social en règle. D'après les documents que les journalistes se sont procurés, les cadres ont suivi tout un séminaire pour définir les scénarios de mise en mouvement et travailler sur les résistances au changement. C'était au manager d'évaluer avec chaque collaborateur ses facultés d'adaptation en évitant surtout la fusion affective qui consisterait à se mettre en colère, à lui prodiguer un soutien forcément infantilisant ou à se laisser atteindre par la violence de sa déception. Les salariés, prévenaient les documents, allaient en passer par une phase de résistance vive, avec de l'inertie, de l'argumentation, du sabotage ou de la révolte, puis par une phase de décompression, avec de la tristesse et peut-être du désespoir, mais l'essentiel était de faire remonter ensuite leur courbe de satisfaction. Qu'ils fassent leur deuil, qu'ils se résignent. Ce n'était pas une phase facile, reconnaissaient les documents. Mais en appliquant ces consignes, ça allait bien se passer.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Cora Salm, qui revient de son congé maternité, s'apprête à reprendre son poste de chargée du marketing dans une compagnie d'assurance. Durant son absence, la société, fondée à la Libération et jusqu'ici gérée de façon paternaliste, a été rachetée. Bien décidée à la moderniser à marche forcée afin d'en obtenir un meilleur retour sur investissement, la nouvelle équipe dirigeante va imposer une restructuration féroce qui brise les salariés physiquement et moralement. Cora, qui avait renoncé à son rêve de vivre de son talent de photographe en acceptant de prendre un travail salarié qui ne lui déplaisait pas trop, va peu à peu perdre pied jusqu'au drame final qui fera basculer sa vie. L'histoire de Cora est de celle que l'on peut lire chaque jour dans les pages faits divers de nos journaux. Une de ces petites histoires d'anonymes qui racontent, mieux que les analyses économiques, le monde qui est dorénavant le nôtre. Depuis Balzac et Zola, peu d'écrivains se sont risqués à en faire le sujet d'un livre. C'est pourquoi il faut saluer et lire le roman de Vincent Message, Cora dans la spirale, paru au Seuil. Passionnant de bout en bout, ce récit résonne fortement avec ce que nous vivons tous, de féroces absurdités dans notre propre travail. Mais c'est surtout un vrai roman contemporain dont l'écriture épouse le rythme et la langue des univers où il nous entraîne, dépourvu de tout manichéisme simpliste et pour cela d'une très grande force. Bonsoir Vincent Message.
Bonsoir.
Vous avez répondu un jour à un journaliste que pour écrire, il vous fallait une nécessité. C'était quoi la nécessité de ce livre-ci ? Plutôt le portrait de femme ? Plutôt le monde de l'entreprise ? Le portrait d'une femme dans le monde contemporain ?
Quelque chose qui convoque tout ça, ça s'est noué pour moi en 2009-2010. On est au moment de cette grande crise économique qui est partie de New York et qui commence à balayer l'Europe. Je sens bien qu'elle va affecter les gens autour de moi. Ma génération, née au début des années 80, est en train de découvrir le monde du travail. On a des rêves et des ambitions, et puis la réalité est souvent assez décevante. Beaucoup de gens proches se retrouvent dans des boulots qu'ils n'ont pas vraiment choisis, dans des hiérarchies qui leur laissent très peu d'espace pour inventer des choses, avec des emplois du temps très astreignants. Et le besoin de sens au travail et la vraie difficulté à en trouver devient à mes yeux à ce moment-là un mal contemporain, quelque chose dont il faut parler plus. Et je me rends compte aussi, ça a été dit en amorce, qu'il y a très peu de fiction romanesque qui s'empare de ces territoires-là. Peut-être parce que l'entreprise, à première vue, c'est pas très facile à raconter. On se dit, surtout dans les métiers de service, voilà, c'est des gens devant des écrans ou en réunion, comment on peut raconter ça ? Mais en fait, quand j'ai commencé à fantasmer, à imaginer cette histoire, je me suis dit que si, d'une part, on collait de très près à quelqu'un, en l'occurrence cette femme, Cora, c'est-à-dire dans son quotidien, dans ce rythme, dans les conflits, les rapports de pouvoir et de séduction qu'elle a au travail, là, ça devenait narratif. Et si, d'autre part, on essayait, à l'inverse, de prendre de la distance et de raconter l'histoire d'une entreprise sur le moyen long terme, avec son changement de culture, qui peut se faire dans la douleur, avec les révolutions technologiques qui la traversent, donc en l'occurrence Borrelia, cette compagnie d'assurance, bah là aussi, c'était une manière de raconter notre histoire contemporaine avec un angle original.
Alors vous avez choisi, Vincent Message, la voix d'un narrateur qui raconte l'histoire de Cora Salm et de Borrelia, 10 ans plus tard quasiment, et qui donc nous donne l'apparence d'une objectivité parfaite. C'est en fait comme un journaliste qui écrirait une non-fiction et qui travaille sur des dossiers, sur des notes, et donc nous propose de porter un regard dépassionné sur le destin de Cora Salm. Est-ce que c'était cette voix off, cette voix du narrateur, qui vous a permis justement d'éviter ce qu'on attend dans ce genre de récit sur la violence économique, de prendre parti? Parce qu'effectivement, Mathias, votre narrateur, donne les raisons des uns, les raisons des autres, et d'un drame, il nous permet d'en apercevoir toutes les facettes.
Oui, effectivement, il est journaliste, et il revient sur ce qu'on appelle parfois un cold case, une affaire qui a l'air classée, prescrite, qui est donc ce drame qui, un 8 juin 2012, a marqué une césure, a traumatisé Cora Salm, mais a vraiment fait passer sa vie dans une autre phase. Il veut comprendre ce qui s'est passé, comment on en est venu là, à cette violence. Pour ça, il va interroger différents témoins, donc des proches de Cora dans sa famille, mais aussi d'anciens collègues, dont certains sont devenus ou restés des amis. Et c'était très important, cette multiplicité de points de vue, parce que l'entreprise, c'est un système très collectif, avec des contraintes qui pèsent sur chacun des acteurs. Et donc, si on raconte une histoire de souffrance au travail ou de harcèlement à partir d'un simple duo, victime-bourreau, ou voilà, donc cette femme et puis quelqu'un d'autre, on regarde quand même les choses, je crois, par le petit bout de la lorgnette. Moi, ce qui m'importait, c'était de marquer comment chaque personne dans cette entreprise, en prenant toute la hiérarchie, vraiment de la secrétaire au PDG, est pris par des contraintes liées à son travail, des ambitions qui peut-être peuvent l'inciter à accepter de subir de la violence ou d'en infliger aux autres, à côté de lui ou plus bas que lui. Et comment ces raisons-là se mêlent. Ça m'intéressait vraiment d'avoir l'ensemble de ces points de vue, et donc aussi une galerie de portraits avec des personnages qui n'ont pas le même rapport au risque, qui n'ont pas le même rapport à ce que c'est que faire une carrière et non plus à la violence.
Alors ce qui est intéressant dans le personnage de Cora Salm, Vincent Message, c'est qu'en fait c'est une jeune femme qui a eu une jeunesse libre, elle voulait être photographe, elle est allée vivre à Berlin, elle y a rencontré son compagnon, mais il est arrivé un moment où, voulant avoir un enfant, elle a eu besoin de boucler ses fins de mois et d'avoir une certaine sécurité. Alors, elle travaille dans les assurances, ce qui est aussi un parallèle. Elle a besoin aussi d'assurance. Et au fond, elle ne fait pas ce travail en dépit de la perte de ses rêves. Elle ne fait pas ce travail par-dessus la jambe. Elle est compétente, elle s'investit, elle a des bons résultats. C'est ce qu'on peut appeler une bonne employée. Elle est chef de son service, et puis vient la restructuration, et là, elle va être tiraillée entre tenter de comprendre ce qu'on lui demande de faire de nouveau, en souffrir, licencier des gens, s'y opposer de temps à autre, et puis on va la voir sombrer dans ses problèmes de violence économique. Avant d'en parler avec vous, on va écouter la sociologue du travail, Danielle Linhart, expliquer ce que ce genre de contrainte provoque sur la sécurité intime des personnes.
Taylor, il a bâti tout son modèle managérial en disant « le savoir, c'est du pouvoir ». Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir, c'est pas possible. Alors, on fait éclater les métiers. Maintenant, on peut pas faire de la même manière, parce que c'est plus complexe. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on met en obsolescence les savoirs, les connaissances, l'expérience, les compétences, par la pratique du changement permanent. C'est ce qu'on a vu à France Télécom. Pour casser, il faut faire en sorte que les salariés ne puissent pas utiliser leur propre expérience, leur savoir, leur connaissance, pour essayer d'imposer de façon légitime un débat dans l'entreprise en disant « Ah ben non, qu'est-ce que vous nous faites faire ?» N'importe quoi, on n'est pas d'accord, ni sur la manière de s'y prendre, ni sur les missions qui nous sont imposées, ni sur les critères d'évaluation. Là, on vous met en difficulté parce que vous ne pouvez plus vous faire confiance à vous-même, vous ne pouvez plus faire confiance à votre expérience, et on va vous dire tout le temps « Ah oui, mais ça, c'était avant. C'était pour avant. Oui, vous savez ça, etc. Vous avez... Mais c'était avant. » Et donc, on plonge les salariés dans une incertitude totale, et le burn-out pour moi, d'un point de vue sociologique, c'est deux dimensions. La première, c'est l'épuisement cognitif pour essayer de reconstituer une maîtrise du contenu et de l'environnement de travail, parce que ça bouge tout le temps. Il faut essayer de comprendre le logiciel qui a changé, le département qui s'est restructuré, le métier qui s'est recomposé, etc., etc. Donc, c'est un travail de Sisyphe. On sait que quand on y arrivera,
ça rechangera.
Paf, on va tout casser, ça rechangera. Et le deuxième, c'est l'effondrement de la confiance en soi. On ne peut plus se faire confiance puisqu'on n'a plus le recul de l'expérience et la certitude de ses connaissances, de ses compétences. Et là, c'est non seulement une production de la souffrance, mais une destruction des capacités, des compétences réelles, individuelles et collectives, des salariés.
Vincent Message, vous avez eu l'idée de ce roman en 2009. Vous avez ensuite, pendant longtemps, mené des entretiens à tous les niveaux des entreprises, depuis les dirigeants, ceux des cabinets d'audit, les travailleurs. On sait que vous avez assisté au procès France Télécom en juin. Vous avez fait un grand papier pour Le Monde magazine. Au fond, ce que Daniel Linhart, qui parlait là aussi en avril 2019, justement à l'occasion de ce procès, ce que vous avez raconté au long de ces 10 années dans ce livre, c'est au fond exactement ce qui faisait le cœur aussi de ce procès, c'est-à-dire ce qu'elle dit de la destruction intime, ce qui intervient dans votre personnage de Cora. Elle en arrive à douter de tout, de l'intérêt de son travail, de sa capacité, et même du sens de la vie. Au fond, c'est exactement ce mécanisme-là qui est au cœur de votre récit.
Oui, bien sûr. Pour moi, j'ai voulu créer un roman assez métaphysique, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très consciente qu'elle va mourir, et donc il faut profiter de la vie, essayer d'en la construire pour en faire quelque chose qui transforme un petit peu le monde autour de soi, hein. On soit en train d'apporter des pierres d'une société meilleure. Elle est aussi très consciente que l'essentiel de son temps, c'est le travail, qu'elle passe dans les transports et au bureau, ce qui vraiment constitue ses semaines. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait plutôt bien son boulot quand elle arrive. En plus, elle est en début de carrière. Et dans un premier temps, elle est valorisée en tant que telle. Elle a un chef, Edouard, avec qui ça se passe bien, qui essaye de la faire monter, qui lui donne aussi des informations sur ce qui se passe plus haut et qui lui permet d'anticiper. Il me semble que vraiment, parfois, dans les entreprises, règne une sorte de brouillard de guerre où il n'y a que certains coins de la carte qui sont dévoilés. Mais ensuite, les choses changent. Pour elle, d'abord, puisqu'elle devient une jeune maman. Donc, elle a moins de temps informel pour discuter avec les gens des évolutions en cours. Elle va pas rester au-delà de 17h30, 18h pour boire un verre et puis pouvoir justement anticiper ces changements. Elle commence à courir. Et dans le même temps, les managers qui arrivent considèrent que cette boîte est une belle endormie dans un milieu où les choses vont bouger vite. C'est un métier de données, donc les boîtes qui accumulent de la donnée, type Google et autres, peuvent très bien commencer à débouler progressivement sur le marché des assurances, en connaissant un peu tout de la vie des gens et donc en sachant aussi quels sont les risques qu'ils prennent et quels sont les bons clients, etc. Et donc, c'est vrai qu'une première vague arrive qui fait déménager l'entreprise. Quand cette vague est là, on dit c'est pour éviter de couper dans les effectifs. C'est quand même mieux de rétrécir un peu nos locaux, de passer de Saint-Lazare à La Défense parce que c'est un peu moins cher, plutôt que de licencier des gens. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Il y a une deuxième vague qui arrive. Donc ça rejoint vraiment ce que raconte Daniel Linhart. L'horizon temporel, il est rétréci de plein de manières. Il est rétréci parce que dans une semaine où on court tout le temps, on a très peu de temps pour se poser et se demander où on en est de sa vie et quel sens elle a. Et puis cet horizon temporel, il est aussi rétréci parce que, en fait, on voit les choses à un an ou deux. Mais est-ce que vraiment cette réorganisation sera la dernière ? Les dirigeants eux-mêmes, parfois, n'en ont aucune idée. A fortiori, les salariés qui sont les derniers informés. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est en démocratie, mais qu'en fait, le salariat est la forme économique dominante et qu'il y a très peu de pouvoir de codécision dans les entreprises. Les entreprises ne se veulent pas, ne se prétendent pas être des lieux de démocratie. Et là, il y a une vraie tension sur la manière dont on construit une société. Il y a quelque chose de politique à changer.
Alors d'ailleurs, lorsque arrive cette nouvelle direction, après le déménagement, on rentre dans le dur, il va falloir se séparer, disons-le, des poids morts.
Antoine Mangin se tourne vers les RH, c'est-à-dire vers Mathilde Rameau, pour qu'elle précise comment elle voit les choses. Elle embraye en disant que l'idée serait de mettre en place une série d'ateliers, assez intensifs pour qu'on s'y remue les méninges, mais assez espacés pour que les participants aient le temps de s'approprier ce qu'ils y apprendront et de voir à partir de là qui saisit l'opportunité de sortir de sa zone de confort et de prendre des initiatives. Et si, dans les années qui viennent, on se sépare de certaines personnes, elles seront plus confiantes dans leur capacité à rebondir, puisqu'on leur aura fait travailler leur employabilité. Mais Franck ne croit pas tellement à ça. Sur le principe, il est d'accord. Ce serait formidable de procéder de cette manière. Mais il n'est pas sûr qu'on ait le temps. Le virage numérique, c'est le genre de virage qu'il faut prendre en accélérant. Si on laisse les gens l'aborder à leur rythme, alors qu'on sait que ça leur fait peur, qu'ils vont y aller piano-piano, on ne rattrapera jamais la concurrence. Et si on va trop vite, fait remarquer Edouard, ce qu'on fera ne servira à rien, car personne ne suivra. Franck balaye l'objection. Qui parle d'aller trop vite ? Il s'agit juste de faire en sorte qu'on ait pour mettre les choses en place des gens très opérationnels, qui ne soient pas en train de s'acclimater en refoulant leurs angoisses, mais qui se meuvent là-dedans comme des poissons dans l'eau. La stratégie de Verzac ou de Rameau, il n'a rien contre dans l'idée. Mais il faut être honnête, elle prend 2 ou 3 ans. Et il faut bien voir sur quoi elle débouchera. On va se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout formables. Parce que je crois, dit Franck, à la perfectibilité. Mais j'ai eu quelques occasions aussi de découvrir qu'elle avait ses limites. Et puis des réfractaires qui diront oui à tout pour ne vexer personne, mais qui derrière feront le minimum. Et un contingent de seniors, persuadés pour certains que dans leur cas c'est trop tard. Et qui pour d'autres s'y colleront, mais plieront bagage juste après. On risque l'effet de tout ça pour ça. Alors que rien ne serait plus simple que de repérer sur le marché les personnes adéquates en allant les chercher pour les juniors à la sortie de leurs grandes écoles et pour les managers dans des boîtes de conseil ou chez les concurrents. Franck dit qu'il faudrait quand même qu'on reconnaisse qu'on a dans cette baraque beaucoup de poids mort.
Vincent Message, dans tous les chapitres qui concernent justement la vie de l'entreprise, vous avez restitué ce langage qu'on entend maintenant partout, y compris dans cette maison, les low performers, le manager par les résultats, tout en disant que l'humain doit rester au centre. Donc, il y a aussi pour vous, écrivain, une façon d'intégrer ce langage de l'entreprise qui est tout sauf littéraire, mais de l'intégrer d'une manière littéraire. Ça a dû être pour vous quelque chose d'assez jouissif à faire.
Oui, tout à fait. C'était un grand défi. Ça me faisait parfois un peu peur. Je me disais, dans une phrase où on met le mot PowerPoint ou le mot Excel, comment on en fait encore une phrase littéraire, justement. Et puis, je me suis rendu compte que ce qui était très intéressant, c'était d'articuler les concepts du management, qu'effectivement on entend partout, des manières plus singulières que les gens de s'exprimer, qui ne sont pas de l'anglais, qui sont des images, qui dépendent de leur génération, leur arrière-plan socioculturel, la tactique qu'ils sont en train de mettre en place. Donc il y a des scènes comme ça où c'est un ping-pong très rapide, et puis ça permet aussi beaucoup d'ironie, c'est-à-dire que cette expression, par exemple, l'humain que vous avez cité, l'humain est une de nos valeurs, l'humain doit rester au centre, ce qui est formidable, c'est que généralement, elle apparaît quand c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Les vrais humanistes ne convoquent pas comme ça l'humain à tout bout de champ. Ils n'ont pas besoin de le dire puisque on voit qu'ils s'en préoccupent. Alors que ceux qui font passer d'abord la rationalité économique, les critères de rendement, etc., bah eux, il va bien falloir qu'ils se raccrochent à cette valeur. Et le mot valeur aussi est très très galvaudé dans notre société en général et dans les entreprises en particulier. Donc cette langue. La langue, pour un écrivain, ça peut être un outil formidable d'émancipation des personnes. Quand on sait mettre des mots sur une situation, on est plus libre. Quand on se tait à l'inverse sur de la violence qu'on subit, eh ben, on se renferme, on se dévalorise, etc.
Mais ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que, au fond, et on peut le voir dans plein de sujets, lorsque la littérature s'empare de quelque chose qu'on a l'habitude de lire dans les journaux, dans les livres d'histoire, tout d'un coup, la réalité nous crève les yeux.
Oui, et ça, je crois que c'est aussi lié à la distance qu'a mon narrateur. C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire trop de discours directs. C'est lui qui ressaisit tout ça et qui imagine ces scènes. Il était pas là, par définition. Donc, il se fonde sur des témoignages. Mais ce qu'il imagine, c'est ce qui s'est dit en substance, c'est les échanges dans leurs grandes lignes. Et ça permet aussi de teinter les choses de cette ironie dont je parlais, qui est vraiment importante dans le roman, à d'autres moments d'une tendresse, de quelque chose de plus lyrique. Parce que, il y a aussi des moments de solidarité humaine forte. Il y a des amitiés qui se nouent dans cette entreprise. C'est pas immédiatement un enfer. Les choses se détraquent progressivement, mais c'était là d'ailleurs la même chose au procès France Télécom. Moi, ce à quoi j'ai pu assister sur les bancs des victimes, de leurs familles, etc., c'était aussi des choses extrêmement émouvantes, des manifestations de fraternité, une façon qu'avaient les gens de venir se taper sur l'épaule et s'encourager et se dire leur admiration réciproque. Donc dans le roman, il y a des personnages qui sont plutôt comme ça les alliés de Cora dans l'entreprise. et avec qui ces choses-là ont lieu. Mais dans la confrontation avec Franck Tomaso qu'on a entendu, bah, le courant passe nettement moins bien et la violence est bien présente.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Vagabonde sur France Inter.
Vincent Message, Cora dans la spirale, votre roman paru au Seuil dont nous parlons ce soir, c'est aussi et surtout le portrait d'une femme. Je vois que vous faites référence d'ailleurs à Emma Bovary, à Anna Karénine, et en fait, ce ne sont pas des comparaisons sans raison, parce que Cora Salm, au fond, elle est confrontée, comme ces deux héroïnes classiques, à la déception, à la résignation. Elle refuse de se résigner et en même temps tout concourt pour qu'elle accepte sa vie. Et elle continue à se rêver une vie plus grande que celle qu'elle est en train de se préparer. Et au fond, la spirale, l'entraînement jusqu'à la chute, et d'ailleurs il y a un moment, il y a un chapitre où elle tombe réellement par terre, ça vient de ça, ce fait que le rêve est encore trop prégnant par rapport à la réalité et à la résignation qu'on lui demande.
Oui, tout à fait. La vie qu'elle a ne lui suffit pas tout à fait. Elle a envie de rester multiple en particulier. C'est-à-dire, elle est devenue une maman, elle est devenue une salariée, elle est dans cette vie active, à un peu plus de 30 ans, mais elle voudrait rester une amante, une amie, une femme qui a une activité artistique, en poursuivant la photographie, même si elle a renoncé à en faire sa carrière, quelqu'un qui se préoccupe du monde autour d'elle. Et donc, cette multiplicité, bah, c'est pour créer de l'intensité aussi, c'est pour avoir une vie dont on se dit quand on se lève le matin, elle est digne d'être vécue, il m'arrive des choses. Il m'arrive aussi des choses neuves, je ne suis pas dans cette espèce d'affadissement de la vie qu'à un moment donné elle diagnostique dans ses carnets. Elle a envie qu'il y ait encore des premières fois, des choses inattendues, des rencontres avec des œuvres d'art ou des personnes qui viennent la bousculer. Il y a aussi évidemment son rapport à sa fille qui crée de la nouveauté parce que cette petite Manon change en permanence. Donc ça, elle voudrait en profiter, elle voudrait en profiter plus.
Vous diriez aussi que c'est une héroïne romantique ?
Elle a une part d'idéalisme. Romantique, je ne sais pas, parce que c'est quand même quelqu'un qui a aussi ses ambitions de carrière, qui sait essayer de comprendre ce qui se joue dans la boîte pour ne pas être victime de telle ou telle évolution, résister avec des arguments parfois très pragmatiques aux injonctions de ses supérieurs en leur disant « l'open space, personne n'arrive à se concentrer, vous croyez que ça améliore la productivité, en fait ça lui nuit, donc peut-être faisons les choses différemment ». Donc elle a les pieds sur terre, mais c'est sûr qu'elle a une partie de son esprit qui est occupée par des aspirations moins farfelues que celles de Madame Bovary, mais en tout cas plus grandes qu'elle, effectivement. Et dans l'intensité, il y a quelque chose qui est toujours proche de la dépression. C'est-à-dire que Daniel Linhart a donné tout à l'heure une définition de burn-out qui s'applique vraiment à la sociologie du travail. Mais on peut voir les choses d'une manière un peu plus métaphysique, pour reprendre ce mot. C'est-à-dire que c'est parce que nous cherchons beaucoup d'intensité que nous sommes sur la corde, que nous jouons parfois un peu avec nos propres nerfs et que derrière, il peut y avoir des effondrements. Et ça vaut aussi d'ailleurs de nos sociétés plus largement. C'est-à-dire que en étant à la défense, Cora se rend bien compte que la croissance en France, elle n'a pas du tout été lente ces dernières décennies, que ce quartier d'affaires est sorti de terre, que ces tours sont des signes quand même d'un orgueil humain énorme. Et à cette croissance très rapide peut aussi succéder des crises économiques très violentes ou un effondrement écologique, etc. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que aujourd'hui, les sociétés dans leur frénésie de consumérisme, etc., sont un peu dans le même état que les individus qui courent dans le métro. Il y a toujours le risque de la chute.
Alors vous parliez il y a une seconde, Vincent Message, de l'ironie aussi et de l'humour que Cora tente de préserver, notamment lorsqu'elle porte son regard sur ce nouveau mode de fonctionnement dans sa boîte, l'open space dont nous souffrons tous, quel que soit notre emplacement.
Elle découvre ce que c'est que de travailler en open space, un autre grand changement qui exige du corps d'autres adaptations animales. C'est la tendance ces années-là. Les plateaux qui s'ouvrent pour économiser de l'espace et faire circuler la lumière. Toutes les cloisons qui tombent pour faciliter les échanges. Suivant la courbe de la façade, les postes de travail sont répartis en carrés de 4 et séparés les uns des autres par des armoires d'1,50 m, dans lesquelles des placards qu'on peut fermer à clé servent aussi de vestiaire, pour ceux qui, en langue neutre, s'appellent les effets personnels. Le passage est incessant dans le couloir qui longe le plateau. Cora se demande ce qu'ils ont tous à aller et venir. Sauf quand c'est elle qui se retrouve à le faire. Il y a le bruit que rien n'arrête. Les conversations que son oreille attrape, pro ou privée, qui en tout cas ne la regardent pas. Parfois, c'est le but affiché, la transversalité, elle entend poser une question à laquelle elle a la réponse, un problème sur lequel elle a un avis, et elle peut réagir, mais cela suppose de s'interrompre au risque qu'il soit plus difficile de replonger dans le travail. Elle a des collègues que ça ne dérange pas de s'interrompre à tout bout de champ. Ils écoutent, mine de rien, toutes les conversations et ils font ingérence, dès que ça les intéresse, même si ce n'est pas du tout à eux qu'on s'adressait. Certaines voix s'élèvent haut, pour un oui, pour un non, s'affranchissant de tout contrôle de leur propriétaire. Chacun est incité à travailler son répertoire de mimique, connotant l'exaspération. Une collègue a un jour apporté des panonceaux avec marqué en lettres capitales. Abrège. Et puis... moins fort. Et puis, on a compris. Une fois le système nerveux central averti du problème, on n'en sort plus.
Vincent Message, l'architecture contemporaine et l'aménagement de nos lieux de travail, ça n'influe pas seulement sur la productivité, ça influe sur nos corps, ça provoque des souffrances, ça influe sur nos âmes, ça les délite un peu aussi. C'est là-dessus aussi que vous avez écrit.
Oui, j'ai vraiment eu envie de montrer que le travail, même si ça n'est plus un travail manuel, ça reste une expérience corporelle. Vraiment. C'est-à-dire que ce nouvel espace de travail à la défense, Cora, chez elle, ça entraîne d'abord des migraines. On peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'on est beaucoup trop haut pour ça. Donc, on entend la tour qui souffle et on peut avoir l'impression qu'on finit la journée avec un air où se sont déposées comme ça des particules un peu grises et plus du tout d'air frais dans le cerveau. Rejoindre le sol est compliqué parce que c'est loin, donc il faudrait faire des pauses très longues pour pouvoir se le permettre. Parler au téléphone, on peut plus parler spontanément à ses interlocuteurs puisque tout est entendu. Donc là où on peut avoir une manière comme ça un peu informelle de s'exprimer avec des gens qu'on connaît depuis un certain temps, prendre des raccourcis, donner aussi des informations sur la boîte qui sont pas forcément des informations officielles ou audibles, etc. Et ben là, brusquement, ça lisse la parole. Donc on devient une espèce de petit acteur, petit comédien qui porte un masque, qui ne peut plus tout à fait être lui-même. Et quand vous demandez à des gens de ne plus être tout à fait eux-mêmes pendant 8 heures dans la journée ou 10 heures dans la journée, bah, ça finit par avoir un impact assez fort sur ce qu'ils ont de plus intime, la façon dont ils se voient. On est content d'avoir du travail, puisqu'on est content aussi de se sortir de soi, de se dépasser. Quand on s'habille pour aller au travail, on se met une carapace qui est destinée à la fois à se protéger et puis à se transcender aussi. Mais quand ce jeu de rôle se met à dominer, qui est aussi un jeu de masque donc, et ben là, j'ai l'impression que les gens en souffrent parfois jusqu'à se sentir. Moi, on m'a raconté des expériences. Quand ça fait 3 heures qu'on essaye de faire quelque chose en open space et qu'au bout de 3 heures, on n'a rien produit de valable parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, ben on a l'impression qu'on n'est rien. On se sent anéanti, en fait. On nous demande de la productivité, on ne nous en donne pas vraiment les conditions. Et donc, du coup, derrière, il y a une colère et il y a un mépris de soi qui commence à rentrer dans nos cerveaux.
C'est Cora dans la spirale, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle est entraînée et à la fin du livre, elle s'est arrêtée par la force des choses. C'est au fond le portrait d'une femme à bout de souffle, mais d'une société à bout de souffle aussi. C'est un livre dans lequel on s'identifie assez facilement à cette Cora et au bout du compte, on ne sait pas très bien comment en sortir de cette spirale.
Bah, c'est un livre que j'ai voulu assez réaliste, voilà, assez minutieux dans la manière dont il décrit les choses. Donc, il reflète les rapports de force réels, qui sont pas en faveur de l'émancipation des salariés. Et il ne dit pas, effectivement, comment on se sort de cette situation. C'est pas le rôle du roman, en l'occurrence.
C'est pas le rôle de Cora non plus. Il n'y a pas une façon pour Cora de s'en sortir.
Autour d'elle, les choses se referment comme un piège. Alors, on voit bien, de temps en temps, les lecteurs que je rencontre en librairie me disent « mais elle aurait pu saisir telle branche, elle aurait pu peut-être aller voir les syndicats plus tôt, ou un médecin du travail. Ou... » Et justement, moi, ça m'intéresse que le livre fasse réfléchir aux options qu'a le personnage et que peut-être elle n'exploite pas, puisqu'au bout d'un moment, le principe même de la spirale, c'est qu'on se met à manquer de lucidité. On ne regarde plus forcément où sont les portes de sortie. Donc, que les lecteurs s'identifient au personnage, et je crois qu'ils sont assez nombreux à le faire, et ensuite et envie de lui dire « mais va plutôt par là », presque, c'est quelque chose d'enfantin avec la fiction, hein. Quand on voit Guignol et quand on voit le policier qui arrive derrière avec un bâton, bah, on a un réflexe comme ça de vouloir protéger le personnage ou le sauver. Et il me semble que ça, c'est très concret, c'est pas du tout théorique, mais ça permet de faire réfléchir aussi aux options qu'on a encore devant soi et à la manière dont on peut se révolter, dont on peut démissionner, dont on peut changer les choses. Il y a des lecteurs qui me disent que Cora s'allume comme ça, comme une petite conscience, que ça devient un personnage qui est dans leur conscience comme un signal d'avertissement.
Et voilà, c'est ça aussi le rôle de la littérature, quand elle est bonne, bien entendu. Cora dans la spirale, c'est paru aux éditions du Seuil. Et je vous remercie, Vincent Message, d'être venu nous en parler ce soir. Au
revoir. Merci beaucoup à vous.
La semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.